Pastor Willis Moses de Brooklyn aux États-Unis, à New York. Alors merci, vous pouvez vous asseoir. Eh bien, une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans le fait d'être né de nouveau et de venir dans cette église, il y a tant d'années de cela, et d'avoir essayé d'être pasteur pendant 40 ans, eh bien, je crois que ce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est une très bonne leçon à apprendre. Dieu, donc, il attend, c'est un Dieu patient, mais pour vous et pour moi, parfois nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, et ensuite il semble comme si une voix parlait de quelque part et dise, est-ce que tu es prêt à aller? Mais parfois, vous êtes trop lassé. Alors il dit, eh bien, simplement, suis-moi. 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 C'est tellement un privilège d'être ici ce soir. Et j'ai eu un très, très bon moment cette semaine jusqu'à présent. Et c'est vraiment au-delà de mon rêve le plus fou de voir ce que Dieu peut faire. Et il fait toujours quelque chose. Il est toujours en train de faire quelque chose qui a besoin d'être fait dans chacune de nos vies. Peut-être on n'aime pas ce qu'il fait, mais il le fait. Vous tournez un carrefour, vous dites, c'est là qu'il faut qu'il soit là pour moi, et puis c'est de l'autre carrefour qu'il dit, qu'il nous salue, qu'il dit, je suis là. Parfois aussi, quelque chose que j'essaie de faire, mais qui jamais ne marche, et j'ai déjà dit cela auparavant, avec mon épouse, est-ce que tu peux te lever pour que tout le monde puisse te voir? Lève-toi, s'il te plaît. Voilà.
Lorsque je vais,
partout où je vais, elle vient avec moi.
Et
j'ai été dans différents endroits dans le monde. Mais c'est une chose étrange. Lorsque je rentre à la maison et que je me repose, elle trouve la manière de rentrer à la maison, elle aussi. Je pense que c'est une blague. La dernière fois, nous sommes allés sur le champ missionnaire. J'ai dit, ça y est. Mais elle est ici ce soir. Et gloire à Dieu pour elle. Et quel Dieu puissant nous servons. C'est tellement un privilège de faire partie de cette église. Et je ne sais pas où est-ce que Dieu va me conduire ce soir. Il y a tant de choses qui traversent ma pensée. Mais une chose qui me réjouit, une chose dont je me réjouis, c'est lorsque une église va à travers une tempête et Jésus-Christ qui, lui, est dans la montagne et il est en train de prier sur la montagne. Et tout d'un coup, et toujours, il vient et il arrive au milieu de la nuit. Il vient en marchant sur les eaux de la tribulation. Et vous savez ce que cela veut dire. Cela aussi représente les nations païennes. Il vient marchant sur les eaux et ses disciples, eux, ont des difficultés. Mais il n'y a pas de problème. Vous savez, nos problèmes viennent lorsque nous ne sommes plus alignés avec lui. Mais si nous restons fidèles à Jésus, il est capable de nous garder, de nous empêcher de tomber. Donc, même en donnant le message, je pensais au message, alors que je pensais au message ce soir, le fait de penser avec Dieu, le thème. N'est-ce pas extraordinaire comment est-ce que souvent nous pensons et nous pensons tellement que nous nous pensons dans des problèmes. Nous sommes très doués à cela, nous sommes excellents. Nous pensons jusqu'à ce que nous soyons dans des problèmes parfois. Nous nous amenons aux problèmes par nos propres pensées. Et ensuite, finalement, nous regardons vers Dieu. Donc, de penser avec Dieu, de penser avec Dieu, ça c'est formidable, penser avec Dieu. Et dans le fait de penser avec Dieu, il y a deux passages des Écritures qui sont liés à David, dans le psaume 19, verset 14. Et sa prière, dans sa prière à Dieu, cela parle de lui comme un homme. Et David mentionne, il dit les paroles de ma bouche, il dit les paroles de ma bouche, la méditation de mon cœur. Il parle du fait d'avoir une pensée intérieure ainsi qu'une pensée extérieure. Souvent, nous apportons un message, mais nous devons prendre garde parce que ça pourrait être quelque chose qui est connecté à quelque chose entièrement différent de ce dont nous parlons, mais cependant, il y a quelque chose de mauvais qui vient parce que quelque chose qui ne venait pas de la méditation de notre cœur avec Dieu. Pendant 40 ans, si souvent, et Dieu est tellement patient, il est un Dieu grand, puissant, aimant au ciel. Et puis vous pensez que vous faites un travail formidable et tout d'un coup il permet qu'une épreuve vienne. Et l'épreuve est trop grande pour l'individu. Mais l'épreuve fait ce que Dieu c'est que le but, c'est que notre vie propre est notre pire ennemi. Et il dit, je vais te laisser aller dans cette épreuve et faire cette bataille seul. Je vais te laisser seul faire cette bataille jusqu'à ce que tu pleures vers moi, que tu cries vers moi en disant, Seigneur, ça me suffit. Et lorsque tu cries à Dieu en disant, Dieu, j'ai eu assez. Et à ce moment-là, il dit, viens à moi, viens à moi. Est-ce que vous avez quelque chose dans votre vie qui est plus puissant que vous et vous ne pouvez pas vous en débarrasser? C'est votre vie propre qui est votre ennemi. Et Dieu dit, viens à moi, viens à moi. Et si on peut apprendre cette leçon, si nous apprenons cette leçon, c'est pour ça que David parle, la manière dont il parle là. Il dit, la méditation de mon cœur. Et il cherche à avoir une pensée intérieure autant qu'une parole extérieure. Et il veut savoir d'où cela vient. Je peux avoir un beau message, un beau message préparé, tout par écrit, bien préparé, et peut même délivrer mon message de manière très très bien. Mais une chose, c'est que j'ai besoin de m'arrêter, de considérer d'où est-ce que cela venait. Est-ce que c'était un message? C'est pas le message en lui-même. Et mais c'est d'où? Quelle est la source de ce message? Quelle est la source de ce message? Et si souvent, Dieu dit, il dit, si tu me laisses, je agirai à travers toi. Mais si tu ne me laisses pas, eh bien, tu seras tout seul. Quel Dieu puissant nous servons. Car la parole de la bouche est l'expression des pensées intérieures, et donc le cœur est le problème essentiel. C'est le cœur qui est le problème. Et merci pour ces quelques paroles ce soir, et peut-être cachons ces choses dans nos cœurs et nous finirons ce message plus tard. Mais si nous cachons ces paroles dans notre cœur, au nom de Jésus, amen.
Okay, while you're standing, open your Bible to
Alors, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Jérémie, chapitre 29. J'apprécie vraiment cela. C'est un grand pasteur. Et de travailler ici, sous Pasteur Shala, je rends grâce à Dieu pour lui et pour son épouse. Cette épouse extraordinaire, vraiment.
And there's many amazing wives. She's wise, humble, meek.
Sage, humble.
It's great. It's great to be here.
What C'est formidable d'être ici. Alors.
Forgot. That's not good, is it? That might be okay though. Okay, I want to speak about the Bible tonight.
Je veux parler sur la Bible ce soir.
Because I love
Parce que j'aime la Bible. Deux choses que Paul a dit à la fin de sa vie, et c'est quelque chose qui brûle toujours dans mon cœur. Il a dit à Timothée, il a dit, amène les parchemins dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, 13. Il dit, je suis en prison, je suis à la fin de ma vie, amène les livres. Et ensuite au verset 9, il a dit, sois diligent de venir vers moi, j'ai besoin de toi, Timothée. J'ai besoin de la Bible, j'ai besoin du corps. Et ça, c'est un message extraordinaire. J'ai besoin de la Bible, j'ai besoin du corps. Jésus, il est la tête du corps. Et lorsque l'Église n'a pas la parole de Dieu, eh bien, dans son expérience, c'est une Église sans tête. Ce n'est pas une bonne manière de commencer, n'est-ce pas? Mais c'est très vrai. Donc, dans Jérémie, chapitre 29, au verset 10. Mais ainsi parle le Seigneur, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous. Et j'aime cette portion ici, et je réaliserai à votre égard ma bonne parole. N'est-ce pas formidable que Dieu va réaliser une bonne parole? Il va réaliser sa bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Ça, c'est un des grands problèmes dans le christianisme aujourd'hui et dans toutes nos vies. Car je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. Je connais les pensées que je pense envers toi, en anglais. On dit, oui, je sais ce que Dieu pense envers moi. Ce n'est pas toujours correct, d'ailleurs, ce que je pense que Dieu... Mais Dieu dit, mais moi, je connais les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Merci Seigneur ce soir pour la bonne parole que tu accomplis envers nous. Merci pour cette parole précieuse et nous t'aimons ce soir et nous aimons ta parole et nous sommes ici pour honorer Jésus-Christ ce soir, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et nous prions ce soir, alors comme nous honorons Dieu ce soir, que nous puissions recevoir avec douceur la parole de Dieu qui est capable de délivrer nos âmes. Donc Père, bénis ce message, bénis cette soirée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a prêché un message il y a un certain temps en Afrique de l'Ouest. Et ce message, il résonne dans mon oreille depuis longtemps. Et j'y ai pensé encore de nouveau aujourd'hui. Et de psaume 119, verset 97, il dit, « Oh, combien j'aime ta loi. Oh !» Le psalmiste, il proclame, il dit, « Oh,
oh,
combien j'aime ta doctrine. » Le mot « Torah » là, c'est « Combien j'aime ton enseignement, combien j'aime ton instruction, combien j'aime la parole de Dieu. C'est ma méditation toute la journée. Oh, combien j'aime ta loi, ta parole, ta doctrine, ton enseignement, ton instruction. » Et vraiment, n'est-ce pas ce qui est tellement nécessaire aujourd'hui dans le christianisme, alors que nous regardons dans le monde et nous voyons tant de croyants, et c'est triste de dire, mais des croyants qui vont au ciel, mais qui n'ont vraiment aucune relation avec la doctrine et avec la parole de Dieu. Et le psalmiste, lui, dirait, je crois que c'est Ezra, il dit, « Oh, combien j'aime ta doctrine, ta loi, ton enseignement, ton instruction. » C'est ce qui est constamment dans ma pensée, c'est ce à quoi je pense toute la journée. Et quelqu'un dirait, c'est un peu hyper spirituel, là. C'est un peu étrange, bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire de citer des versets bibliques tout le temps? Non. Il dit, mais je médite sur la parole de Dieu et je permets au Saint-Esprit d'amener une application pratique pour chaque moment de chaque journée. Et si l'ennemi a quelque chose qu'il peut faire, certainement, c'est d'ôter la parole de Dieu. Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire et pour enlever la parole de Dieu de l'Église. Aujourd'hui, on a parlé de l'importance de la parole de Dieu dans l'Église. Et donc, si vous enlevez l'Église, la parole de Dieu de l'Église, et peut-être on ne commence pas en enlevant la parole, mais 1 Timothée 4,14, on a des gens qui négligent la parole. Le mot « négliger » dans le grec, cela veut dire de ne pas se soucier de cela, de dire « oui, je crois que c'est la parole de Dieu, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est très important pour moi. » Ça, c'est de négliger la parole de Dieu. Peut-être de mal interpréter la parole de Dieu dans 2 Pierre, de mal interpréter la parole, ou dans Proverbe 30, 5, 6, ou Apocalypse 22, 18 et 19, d'ajouter à la parole ou d'enlever de la parole. Peut-être de construire un faux système de croyance sur la parole. Peut-être de cacher cette parole lorsqu'ils étaient dans le temple et que le temple était dans les ruines et qu'ils ont envoyé des gens pour réparer la parole et ils sont revenus en pleurant vers le roi. Ils ont dit, nous avons découvert le livre dans la maison du Seigneur. Donc, ne dites-vous pas « Amen » à Dieu de ce que nous avons le livre dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dans la maison de Dieu? Et peut-être ce soir, je pourrais mentionner 21 choses qui sont dans la maison du Seigneur. Et ce n'est pas la parole, mais je ne vais pas le mentionner maintenant. Et donc, dans la maison de Dieu, et j'aime 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, il dit, Si je tarde, et Paul parlait à Timothée, et je pense que dans un sens c'est une application de notre vie, il dit, si je tarde, eh bien je veux que tu saches comment te comporter dans la maison du Seigneur, dans l'Église du Dieu vivant qui est le pilier de la vérité. Je veux que tu saches qu'est-ce que cela veut dire de savoir comment se comporter. On ne parle pas du fait que les enfants qui courent sur le parking ou des choses comme ça, mais comment est-ce que je dois diriger ma vie, comment est-ce que je dois me conduire, comment est-ce que nous devons, ce à quoi nous devons nous concerner dans la maison de Dieu, et c'est l'Église du Dieu vivant, le pilier. Ça, c'est on a une colonne ici, là, vous voyez, dans notre église, notre sanctuaire, il y a des colonnes. C'est le pilier, la colonne, le pilier et la fondation de la vérité. Et donc l'Église, comme Paul le disait, elle est là pour être le pilier et pour être le fondement de la vérité. Et je rends grâce à Dieu Parce que, comme Pasteur Stevens est ici ce soir, et pendant des années, nous avons écouté, et Pasteur Shallow, lorsqu'il se lève, et je pensais que le message d'hier soir, c'était un message formidable. Et juste la puissance de Dieu, l'onction, et ce qui se passe ici, mais d'avoir des hommes et des dirigeants, et une église, et des femmes, et des adolescents, et des enseignants dans une école chrétienne, et dans une école biblique. Et ce que nous proclamons, c'est que cet endroit est un pilier et une fondation de la vérité. Et nous, en tant que dirigeants, nous prions que ce soit un ministère ici, ou un ministère à Bakou, ou en France, ou en Inde, ou en Amérique du Sud, ou en Amérique centrale, peu importe là où c'est. Nous, en tant que dirigeants, nous avons une responsabilité de nous assurer que nous protégeons contre ce qui pourrait venir et qui voudrait faire de la maison de Dieu de quelque chose d'autre qu'un pilier et un fondement de la vérité. Et cela se passe partout. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 dit que dans les derniers jours, il va y avoir des esprits de séduction et des doctrines de démons, des doctrines enseignées par des démons. Et l'Esprit dit de manière très, très précise que dans les derniers jours, il y aura des esprits de séduction et des doctrines enseignées par des démons pour que les gens s'éloignent du pilier et de la fondation de la vérité, pour que la maison de Dieu soit autre chose qu'un pilier où le pupitre prêche et enseigne la Bible. L'école biblique, des sessions questions-réponses, la communion, le paix, d'avoir un ministère un à un, de planter des églises qui sont des piliers, pas juste d'aller et de faire toutes sortes de choses que tout le monde fait. Mais je suis simplement en train de réitérer de nouveau que c'est la responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que croyants, en tant que direction, d'être sûr que nous veillons que cela ne se passe pas. Et si vous ne le croyez pas, lisez Actes chapitre 20, où Paul leur dit, il dit, je veux que vous preniez garde, parce que il va entrer parmi vous des loups féroces. Des loups féroces vont entrer parmi vous. Et ensuite il dit, et pouvez-vous imaginer être assis lorsque Paul disait cela? Et il dit, et parmi vous-même, des gens vont s'élever qui vont dire des choses perverses pour éloigner les disciples. Est-ce que c'est moi? Qui, moi? Et qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, il disait, vous connaissez ma vie, si vous lisez Actes chapitre 20, ils voyagent, bien, ils sont 12 qui voyagent avec eux, ils étaient de 11 directions différentes, de 11 endroits différents, et il parle, et il dit, jamais je n'ai cessé de vous avertir jour et nuit avec des larmes, je vous ai prêché la parole, j'ai témoigné à des Juifs et à des Grecs la repentance vis-à-vis de Dieu et la foi envers Jésus-Christ. Et il dit, et c'est la parole de Dieu, c'est le ministère de l'Évangile, c'est la prédication. Je vous ai montré, je vous ai enseigné publiquement, je l'ai fait de maison en maison. Paul était un homme du livre. Il se tenait sur le livre, car pour lui, le livre était un pilier et une fondation de la vérité. Et il dit, et je vous confie à Dieu, dans Actes 20, 32, et à la parole de sa grâce qui est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Il dit, vous n'allez plus me voir. Et ils ne voyaient plus son visage, mais ils avaient leur visage dans le livre. Il savait qu'il leur donnait quelque chose, comme il a dit à Timothée à la fin de sa vie. Il a dit, Timothée, je veux que tu aies une pensée saine, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Je veux que tu étudies pour te montrer un homme qui est approuvé de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui sait diviser la parole de la vérité. Je veux que tu saches que dans les derniers jours, des moments périlleux viendront, et que la seule manière de nous protéger lorsqu'on vient à des moments périlleux, eh bien, c'est de faire quoi? C'est de continuer dans les choses que nous avons apprises, sachant de qui nous les avons apprises. Et que depuis l'enfance, tu connais les saintes Écritures qui sont capables de rendre sages envers le salut, et que l'homme de Dieu sait que toutes les Écritures sont données par inspiration de Dieu. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la Bible. Et c'est cela l'Église. Et lorsque l'Église s'éloigne des Écritures, lorsque l'Église trouve quelque chose d'autre à faire, oh, on va aller outre-mer et on va faire une ferme, on va faire de l'agriculture. Eh bien, pour que les gens, ils aient du blé jusqu'à la fin de la vie, mais ils n'ont pas le grain de blé qui tombe dans le sol et qui meurt. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont été nourris, mais... Et on fait ces choses. On a des orphelinats, on a des fermes, on a des cliniques. On fait ces choses-là. Mais nos vies, c'est au sujet de ce livre. Oh, combien j'aime ta loi. Dites-le. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime la parole de Dieu. C'est ma méditation tout le temps. Écoutez, une personne qui médite et qui reçoit la parole de Dieu est une personne qui va avoir une victoire absolue parce que nous avons l'arme pour aller contre tout ennemi. C'est l'arme pour aller contre le diable dans Éphésiens 6, 17. C'est l'arme contre la chair dans Hébreux 4, 12 et 13. C'est l'arme contre le monde dans le psaume 149 et dans 2 Thessaloniciens. Nous avons ce livre. Et vous savez, de tous les gens, nous sommes tellement privilégiés et tellement bénis. Et nous avons tout. Est-ce que vous savez combien il y a de gens dans ce monde, même de gens même sauvés, qui n'ont pas de Bible? Quelqu'un qui pense, je n'ai que 17 Bibles. Non, vous trompez. Mais il y a certaines personnes qui auraient tellement un désir d'avoir juste une Bible. Pas juste une Bible, mais pour imaginer. Ou des gens qui ont une Bible et qui n'ont personne pour leur enseigner la Bible. Ils vont partout et cependant Dieu leur parle. Mais cette parole de Dieu, et c'est pour cela que nous avons un réveil sur la parole de Dieu ici, n'est-ce pas? Et c'est ce qui amène l'unité. Vous savez combien de gens disent comment peut-on avoir l'unité dans l'Église? Je vais vous dire comment. Néhémie chapitre 8, verset 1. Ils sont tous venus au portail en tant que peuple uni et Ezra a ouvert le livre. Et il y avait 7 hommes à sa gauche, 7 hommes à sa droite, et il se tenait au milieu, sur un pupitre en bois, il a ouvert la Bible et il a prêché pendant 6 heures. Vous voyez, c'était juste à peine quelques minutes ce soir. 6 heures de prédication. Et il a amplifié les Écritures, et c'est pour ça que la Bible dit « La joie du Seigneur est notre force », parce qu'ils avaient la joie, parce que le psalmiste dit « J'ai trouvé ta parole et je l'ai mangée, et cela a été une source de joie pour mon âme ». Nous avons les Écritures, nous avons la parole de Dieu, et aucune arme formée contre cette Bible ne peut prospérer. C'est impossible. C'est éternel. C'est permanent, c'est indisputable, elle a autorité, c'est personnel, c'est inspiré, c'est relevant, c'est pour chacune de nos vies. Oh, combien j'aime ce livre, combien j'aime l'homme de Dieu qui amène le livre. Oh, l'appréciation et l'honneur que nous avons pour la parole de Dieu. Et que nous ne puissions jamais venir à un endroit dans notre vie, et je pense à moi-même là, si j'arrête de parler de la Bible, ne m'écoutez pas. Si je commence à parler de politique et de psychologie ou de quelque chose comme une tendance du christianisme, mais si ce livre ne fait pas partie de ma vie, eh bien ne l'écoutez pas, ne m'écoutez pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est éternel. Ce livre fait une différence. Et ce n'est pas un livre qui va blesser. Ça ne fait que blesser la chair. Mais c'est une bonne parole. Quelle parole c'est? C'est une bonne parole. Et donc Dieu va réaliser sa bonne parole. Il va réaliser une bonne parole envers nous et en nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et combien d'entre vous, parfois, nous avons essayé de réaliser la Bible. Nous avons essayé d'accomplir la Bible nous-mêmes. Étant confiant de cette chose, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous va la poursuivre jusqu'à la venue de Jésus-Christ. C'est Dieu dit, c'est moi qui vais réaliser, qui va accomplir mon bonne œuvre. Éloigne-toi, tu m'empêches. Juste reçois. Le Saint-Esprit qui a écrit le livre est le même Saint-Esprit qui demeure en vous. Et c'est assez simple, n'est-ce pas, quand on y pense. juste de laisser Dieu agir. Et vous savez quoi? Comme Paul allait et parlait à Timothée, il parlait de l'importance des Écritures, que lorsque tu prêches la doctrine, tu vas te sauver, non seulement toi, mais aussi ceux qui t'écoutent. Et nous étudions et nous sommes délivrés, et nous prêchons et nous sommes délivrés. Peut-être que vous avez besoin d'une seule fois, mais nous qui parlons, nous avons besoin de deux portions. C'est pour ça, on l'étudie en se donnant la prêche. Mais il dit, donc, tu délivreras toi-même et ceux qui t'écoutent. Je veux que tu prêtes attention à l'exhortation, à la doctrine, à la lecture, afin que nous ayons quelque chose d'éternel dans nos vies. Et ce qui se passe dans ma vie, c'est tellement facile pour Satan de dire, « Hey, est-ce que je peux te parler aujourd'hui un peu au sujet dans les détails administratifs alors que tu te prépares à ouvrir la Bible? Il y a tant de choses à faire dans l'Église, il y a tellement de gens qui ont tant de problèmes. Qu'est-ce que je vais faire pour qui que ce soit si je n'ai pas ma relation personnelle avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Vous donner un vieux morceau de pizza qui est là depuis des années? Non. Nous avons une relation avec la parole vivante et Jésus est dans le livre, n'est-ce pas formidable? Jésus est dans le corps et Jésus est dans le livre. Et donc, si un corps n'a pas de le livre, il n'a pas Jésus. Et bien que des gens peut-être soient sauvés. Donc, nous voici ici avec cette parole de Dieu extraordinaire dans notre vie. Et nous vivons par cette parole. L'homme, je sais qu'on connaît ces Écritures, mais l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas faire ça, mais Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Il t'a donné le Saint-Esprit afin que cela puisse être fait. Si tu pensais que tu... Il ne t'aurait jamais donné le Saint-Esprit s'il pensait que tu pouvais le faire. Mais c'est Dieu qui réalise sa bonne parole. C'est Dieu qui délivre les gens de la drogue. C'est la parole de Dieu qui délivre les gens dans un mariage. C'est la parole de Dieu qui met en règle les relations, qui délivre les gens de l'alcool. C'est la parole de Dieu qui est prêchée et qui sauve une âme et qui les amène du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est sa parole. C'est sa parole. Et nous prions comme il vient une génération après génération, que ce sont des gens de la parole. Et vous savez ce à quoi je pensais ce soir? L'école biblique. L'école biblique. Parce que Pasteur Adley, il est là, l'école biblique. D'être formé dans l'école biblique. Quoi d'autre? Je suis allé à 5 institutions, 5 écoles. J'ai toutes sortes de diplômes. Et ça a fait de moi, personnellement, un diable intelligent. C'est tout ce que ça a fait de moi, un diable intelligent. Toutes sortes d'éducations sans Christ. Je ne connaissais pas Dieu. Et j'étais sur une destinée d'être perdu pour toujours. Et dans Actes chapitre 9, un jour en 1966, le 6 janvier, à 7h30, le soir, c'était comme la Bible. Dieu qui m'a parlé à travers sa parole. Dieu parle à travers la Bible. Nous avons ce livre, nous avons cette parole. Dieu, donne-moi un désir. Je n'ai pas un désir pour la parole comme je devrais avoir un désir pour ta parole. Donc, donne-moi un désir pour ta parole. Donne-moi un désir d'étudier. Donne-moi un désir de prier avec ce livre. Donne-moi un désir de permettre au Saint-Esprit de mettre cette parole en pratique dans ma vie afin que nous soyons dans ce monde et que nous soyons des épîtres vivantes qui illuminons partout où nous sommes. Soyons des gens du livre. Et je sais que nous le sommes, mais ne permettons jamais quoi qui que ce soit de venir et qui voudrait nous dérober cela. Satan a peur des gens qui sont dans la Bible. Satan a peur de ces gens-là. Il s'éloigne d'eux. Dans Matthieu chapitre 4, verset 11, et à chaque fois qu'il a dit, qu'il est écrit, Satan s'est éloigné. Donc cette parole précieuse, et ils se sont tenus à Jérusalem comme un seul homme. Et c'est ça qui amène l'unité dans 1 Corinthiens à 10. Ils avaient la même pensée, la même volonté et la même parole. Et c'est là où cela a commencé. Cette église, c'était quelque chose qui était toutes sortes de problèmes. On a corrigé cela par le fait que tout le monde a pensé avec Dieu. Dites cela, je veux penser avec Dieu. Je veux penser avec Dieu, parce que si je pense avec Dieu, et pas moi de penser comment je pense que Dieu pense, surtout en étant basé en pensant de là où je suis, et en vivant dans le fait d'être désécurisé, dans la crainte, mais non, mais Dieu dit, je connais les pensées que je pense envers toi, des pensées de paix pour te donner un futur avec un espoir, et je vais réaliser ma bonne parole envers toi. Et Dieu nous donne des paroles qui sont incroyables, qui sont personnelles pour notre vie, et même si vous ne le voyez pas se produire, croyez l'Écriture où Dieu dit, je vais accomplir ma bonne parole envers vous. Et cette parole fait une différence, que ce soit à Baltimore, dans cette ville ou dans le monde entier, cette parole change les vies. Cette parole affranchit les gens. Cette parole donne aux gens une espérance. Cette parole donne aux gens un but. Cette parole appelle les gens. Cette parole délivre les gens. Cette parole met les mariages sur le bon chemin. Cette parole réunit des familles qui ne pourraient jamais être ensemble. Quelqu'un ne pourrait pas faire. C'est cette parole, cette Bible est tellement précieuse que cela puisse être la méditation de ma vie, que je puisse être amoureux de cette parole comme jamais auparavant. Père, merci ce soir pour la Bible, pour la parole de Dieu, et merci que l'apôtre dit dans Actes 6, 4, que nous puissions, consacrons-nous constamment au ministère de la parole de Dieu, et que cette pensée soit en nous qui aussi était en Christ Jésus. Ô Dieu, donne-nous tes pensées, que nous puissions être disponibles, parce que tu es tellement disponible pour nous donner tes pensées, et comment tu penses, et ton initiation envers nous. Et nous te remercions. Ta parole qui m'est parlé, ta parole qui m'est parlé, ta parole personnelle, et ouvre les Écritures, et Dieu, et le Saint-Esprit qui est la vie qui se produit, et je suis vivifié, et je suis vivifié, je suis guéri. Il a envoyé sa parole pour guérir ce soir. Guérir, pas juste physiquement, mais dans l'âme, dans les émotions. Guérir de choses qui se sont passées dans le passé, qui semblent rester ici pour si longtemps. Il a envoyé sa parole pour guérir. Et si vous êtes ici ce soir et vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, eh bien ce soir, sa bonne parole, il dit, je vais accomplir quelque chose de miraculeux dans ta vie. Non seulement je vais te délivrer de tous tes péchés par le sang précieux qui a été versé sur la croix, mais je vais te donner la vie du Saint-Esprit et je vais te donner la personne du Saint-Esprit qui va venir et demeurer en toi. Et ce don gratuit qui est entièrement par la grâce. Et nous te remercions ce soir que tu réalises ta bonne parole. Et dites, Jésus, sauve-moi ce soir. Je crois en toi et je te reçois comme mon sauveur. Et si c'est votre prière ce soir, avec tous les yeux fermés, eh bien, levez juste votre main pour indiquer que vous dites oui à Dieu. Jésus, sauve-moi ce soir. Réalise ta bonne parole envers moi. Merci, Seigneur. Merci. Et pour tous ceux qui sont ici ce soir, est-ce que nous pouvons simplement, peu importe où nous sommes, j'aime la Bible, mais je veux tomber amoureux encore davantage des Écritures, des Saintes Écritures, toutes les Écritures, la parole précieuse de Dieu, qui est plus désirable que l'or pur, qui est plus douce que le miel. Et nous te remercions ce soir, nous te remercions pour le service de ta parole, et c'est une parole de grâce qui est capable de nous édifier, qui crée une capacité. Et nous te remercions, mon Dieu, pour cette Église dans le monde entier. Alors levez-vous avec moi, alors que nous chantons ce chant.